Un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Vous allez maintenant pouvoir écouter la retransmission d'une des nombreuses interventions au premier colloque consacré aux sources et origines de la séparation. C'est M. Bernard Cotteret qui s'exprime. Son intervention était intitulée « Les réformes protestantes et les guerres de religion dans les origines de la laïcité ». Bernard Cotteret est professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin.
Il y a maintenant 7 ans. Lors des cérémonies marquant le quadricentenaire de l'édit de Nantes, j'avais défendu l'idée d'une filiation entre l'édit de Nantes, mettant terme en 1598 aux guerres de religion, et la laïcité. Je souhaiterais rouvrir aujourd'hui ce dossier devant vous et dire combien je me félicite que notre République ait confié à votre Académie le soin de réfléchir aux enjeux toujours actuels de la séparation de 1905 entre les Églises et l'État. Vous me permettrez d'entrée de jeu de vous dire, en citoyen conscient de ces enjeux symboliques, que la commémoration, loin d'être un exercice stérile, comme on l'entend dire quelquefois, ou purement pédagogique, est l'un des fonctionnements privilégiés de la mémoire historique. Commémorer, c'est précisément tenir à distance et en quelque sorte répéter sur le mode symbolique ce que l'on veut éviter sur le mode tragique. La laïcité naît précisément dans notre histoire de la violence. Elle en garde la trace et le souvenir et tente de les exorciser en confiant à la puissance publique les moyens de garantir la liberté des consciences, des cultes ou des expressions philosophiques contre tout abus à caractère sectaire ou partisan. La laïcité en France est une garantie de pluralisme. Vos travaux ultérieurs permettront sans doute de dégager comment, sous d'autres cieux, je pense évidemment aux autres grandes démocraties, les hommes ont appris à gérer leur pluralité politique, philosophique ou religieuse, selon d'autres modes. Mais l'on peut manquer d'emblée de souligner qu'alors même qu'elle se donne comme un idéal universel, notre conception française de la laïcité est singulière. Elle est le fruit d'une histoire qui trouve dans les guerres de religion l'une de ses illustrations les plus tragiques. C'est la raison pour laquelle j'avais intitulé mon livre, paru à l'époque aux éditions Perrin, 1598, l'édit de Nantes, avec comme sous-titre « Pour en finir avec les guerres de religion ». Je n'ai évidemment pas renoncé à ce projet. L'on énoncera d'entrée de jeu un paradoxe. L'édit de Nantes est l'un des rares épisodes de l'Ancien Régime qu'a commémoré la République, plus mal à l'aise, avec Clovis, nous nous en souvenons, ou avec le millénaire capétien. D'où procède cette curieuse fascination pour l'un des temps forts de l'affirmation monarchique. La République, à son corps défendant, n'aurait-elle jamais renoncé à la fascination pour l'œuvre royale? L'édit peut même être considéré en un sens comme l'une des expressions les plus parfaites de la monarchie absolue. Il y a là de quoi susciter la perplexité ou l'étonnement. Le paradoxe pourtant n'est qu'apparent. Alexis de Tocqueville, au siècle passé, signalait les continuités qui poursuivaient l'histoire française de l'Ancien Régime à la Révolution. Une série de contresens poursuit l'interprétation de l'édit de Nantes en notre pays, ou du moins son image publique ne coïncide qu'imparfaitement avec sa réalité historique. Relevons quelques-unes de ces incompréhensions qui, à leur tour à mon avis, susciteront et suscitent notre réflexion. Premièrement, l'édit de Nantes n'est pas un acte libéral. Loin d'entraîner un désengagement de l'État, il correspond à son affirmation autoritaire. Les commissaires chargés de son application seront à l'origine des intendants ancêtres de nos préfets. Deuxièmement, l'édit de Nantes n'est pas non plus une mesure destinée à favoriser les protestants. Et c'est là, je crois, qu'il y a le contresens le plus parfait. Les catholiques ont été les principaux bénéficiaires d'un édit qui n'autorise qu'à titre provisoire l'expression d'une confession minoritaire. Troisièmement, la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685 est donc l'aboutissement, beaucoup plus que la négation, d'un édit temporaire destiné à terme à permettre la réconciliation de tous les sujets du roi dans une même église nationale. Et donc on voit ici combien la valeur symbolique qui s'est attachée à la commémoration a débordé le sens historique de l'événement lui-même. L'édit de Nantes instaure une paix de religion qui dura un peu moins d'un siècle, de 1598 à 1685. Il permit à terme la victoire du catholicisme majoritaire sur la foi minoritaire des Huguenots. Est-ce là véritablement ce que nous devions commémorer? Point d'interrogation. Il existe incontestablement un moment Henri IV. Le prologue de Lady est un merveilleux texte que l'on devrait apprendre par cœur aux enfants des écoles, qui à mon avis n'apprennent pas suffisamment de choses par cœur. Maintenant qu'il plaît à Dieu, comment c'est nous faire jouir de quelques meilleurs repos ? Nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vaquer à que ce qui peut concerner la gloire de son saint nom et service et pourvoir qu'il puisse être adoré et prié par tous nos sujets et s'il ne lui a plus permettre que ce soit pour encore en une même forme et religion, que ce soit au moins d'une même intention et avec une telle règle qu'il n'y ait point pour cela de trouble et de tumulte entre eux. Comment en était-on arrivé là ? Il faut invoquer un long, un patient processus sédimentaire. Concluant les édits de pacification antérieure dont elle s'inspire en grande partie, la paix de Nantes repose sur une singulière dialectique de l'oubli et de la mémoire. L'édit de Nantes naissait d'un processus sédimentaire et y reprenait les édits de pacification antérieure qui avaient marqué la seconde moitié du XVIe siècle. Les deux tiers de ces articles étaient d'ailleurs des reprises d'édits antérieurs. Alors je ne vais pas évidemment vous faire l'histoire de ces édits, je crois que nous n'en aurions pas le temps, mais je voudrais arriver au texte même de l'édit et à cette singulière dialectique de la mémoire et de l'oubli qui est au cœur même de ce projet politique. Et voici ce que dit Lady. La mémoire de toutes choses passées, c'est son premier article, la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne et durant les autres troubles précédents et à l'occasion d'Isseux demeurera éteinte et assoupie comme de choses non advenues. C'est absolument superbe. Et évidemment, le grand moteur de cette réconciliation nationale, j'étais particulièrement intéressé par ce qui a été dit ce matin sur la double messianité dans les manuscrits de Qumran, évidemment que l'on ne connaissait pas à l'époque, mais il y a une tradition culturelle que l'on retrouve. Évidemment, ce qui est fondamental, c'est cette façon que l'on a eu de passer du Christ roi au roi Christ. Et c'est quelque chose que l'on a superbement illustré dans le cas d'Henri IV. Là aussi, je ne vais pas pouvoir développer jusqu'au bout, mais ce qui est remarquable, c'est que Henri IV a su par admirablement gérer son image publique, pétrée là aussi par la philosophie stoïcienne du mépris de la douleur. L'exemplarité fait en quelque sorte partie du métier de roi, nourri de récits chevaleresques, amateur passionné de l'interminable Amadis, censément traduite de l'espagnol. Henri IV est le contemporain de Don Quichotte, un Don Quichotte qui cependant n'ignore pas les réalités et s'est imposé au besoin par la ruse une inflexible volonté. La clémence, le pardon des fautes, la réconciliation des sujets, autant de témoignages de la grandeur royale. Dans la société chrétienne, ce roi qui pardonne ou qui remet les fautes est également celui qui guérit. La métaphore de la maladie, sans cesse usitée pour définir les troubles de la guerre civile, fait du roi le médecin des âmes et des corps. Elle lui confère un caractère thaumaturgique qui le rapproche du Christ. À tout prendre, la clémence, je dirais, est un excellent investissement. Elle honore celui qui la pratique et elle frappe évidemment d'infamie les réfractaires. L'édit de Nantes, ce fut avant tout cela, l'apprentissage de la coexistence par l'acceptation forcée de la différence. Non pas la tolérance au sens philosophique qui supposerait compréhension et indulgence, mais une confrontation domestiquée d'en haut par la monarchie qui littéralement impose les règles de fonctionnement. Alors là aussi, je ne peux pas vous donner tout le détail et je voudrais arriver effectivement rapidement à ma conclusion. En m'interrogeant sur cette question du devoir de mémoire, c'est cette formule qui a été utilisée récemment et parfois décriée, et en disant combien je suis attaché pour ma part à cette idée d'un devoir de mémoire et que je doublerai immédiatement d'un devoir de commémoration si vous me le permettez. Pourquoi évoquer, 4 siècles plus tard, les guerres de religion et leur résolution ? Est-ce par quelque penchant morbide ou afin d'exorciser les passions françaises ? On serait cependant limité de cette façon le rôle de l'histoire et l'éthique de la mémoire. Nous savons bien, au moins depuis saint Augustin, qu'il entre de la mémoire dans l'oubli et de l'oubli dans la mémoire. Nous dirions de façon plus moderne que toute mémoire est sélective. Mais les guerres de religion nous enseignent une autre leçon, réactivée tragiquement notre siècle, en cette année 2005, où nous commémorons aussi la libération des camps nazis. La barbarie s'est développée au sein même de la civilisation, tout comme la religion, de façon irréfutable, a pu accoucher, à son insu peut-être, de l'idolâtrie. Aussi, l'histoire n'est-elle jamais que le récit d'une trahison des hommes et d'une éclipse de Dieu, pour reprendre la formule de Martin Buber. Qu'est-ce dès lors que ce souvenir, sinon constater l'abéance du sens, au centre même de l'histoire ? Le sens n'est pas donné, le sens se construit. Il engage une dynamique et, si l'on nous permet, une volonté politique. C'est à l'école, en veillant à la transmission de la mémoire, c'est aux médias, c'est aux citoyens, d'œuvrer activement, d'œuvrer lucidement, d'œuvrer avec courage pour défendre des valeurs qui trouvent dans la République leur point d'aboutissement. La laïcité chez nous se confond avec la République même. Elle n'en constitue pas un simple attribut, mais avec la liberté, l'égalité et la fraternité, elle est le socle commun qui permet aux hommes de vivre ensemble. Vive la laïcité.
Canal Académie vous propose maintenant d'entendre l'intervention au colloque de Madame Jacqueline Lalouette, professeure à l'Université de Paris 13, sur le rôle de la libre pensée dans la marche vers la séparation. Nous écoutons Jacqueline Lalouette.
Dès 1801, alors qu'il n'existait aucune société de libre pensée, ce mot n'existait même pas, il ne sera forgé que durant les années 1840, alors qu'on parlait plus volontiers de philosophe que de libre penseur, des objections, des oppositions s'élevèrent tant contre la Convention de l'an 9 que contre la loi du 18 Germinal an 10, objections et oppositions soulevées au nom de ce que nous appelons, nous, maintenant, la libre pensée. Le conseiller Thibaudot rapporta que, dans ses mémoires sur le consulat, que des caricatures circulaient à propos du concordat et l'une d'elles représentait le premier consul en train de se noyer dans un bénitier dans lequel des évêques l'enfonçaient à l'aide de leurs crosses. L'armée fut particulièrement marquée par cette réprobation contre la Convention de 1801 et la loi du 18 Germinal, l'armée du Rhin encore plus que l'armée d'Italie. On trouve également de nombreuses oppositions dans la société civile et particulièrement dans le corps législatif et le tribunat. Et d'ailleurs, pour être sûr que la loi serait votée, Bonaparte, sur la suggestion de Cambacérès, on ne le dit pas assez, Bonaparte procéda au renouvellement du cinquième de leurs membres, comme cela devait se faire en l'an 10, non pas par un tirage au sort, mais en éliminant tous les impies, tous les récalcitrants, tous ceux que nous appellerions des libres penseurs. Furent ainsi exclus Daunou, Marie-Joseph Chénier, Isnard, Benjamin Constant et bien d'autres. En 1801, Benjamin Constant écrivit « La religion doit être ignorée du gouvernement » comme toutes les autres opinions individuelles. Elle ne peut être une institution politique ou civile. Elle se compose des relations existantes entre un être supérieur et l'homme comme individu. Ce passage figure dans une édition bien ultérieure de deux chapitres inédits de l'Esprit des religions. De son côté, Destut de Tracy rédigea un commentaire sur l'Esprit des lois dans lequel figure d'insolents passages sur la religion, bonne à rendre les esprits dociles et soumis au pouvoir politique. Ce livre était alors impubliable en France. Destut de Tracy le fit parvenir à Jefferson, qui le traduisit, le fit imprimer en 1811 et le livre ne put paraître en France qu'en 1819. Voilà donc deux grands thèmes. La religion doit rester de l'ordre du privé et la religion est la béquille des régimes tyranniques. Ces deux opinions, bonnes à nourrir des thèses séparatistes, anticoncordataires, traversèrent tout le XIXe siècle, confortées et fortifiées par d'autres jugements critiques sur les régimes concordataires qui furent partagés par un nombre grandissant d'adeptes libre-penseurs au fil des décennies. Je ne parlerai ici que des libre-penseurs, mais tout au long du XIXe siècle, il y a eu des séparatistes qui étaient des libéraux, qui étaient des protestants libres et qui étaient, dans certains cas, des catholiques libéraux. Si la Restauration avec Paul-François Dubois du Globe, si la Monarchie de Juillet avec Audry de Puyraveau, avec François-André Isambert, si la Seconde République avec Isambert encore, Edgar Quinet, Pascal Duprat, Pierre Leroux ont connu des libres-penseurs ardents à demander la suppression du budget des cultes et la séparation de l'Église et de l'État, il fallut attendre le Second Empire, puis les premières décennies de la République triomphante, la fameuse République aux Républicains, pour que la demande séparatiste puisse s'exprimer avec une certaine force. Dans un premier temps, je présenterai les personnalités anticoncordataires ainsi que les rythmes, les moments et les modalités de la revendication séparatiste. Dans un second temps, j'étudierai quelques-uns des principaux fondements de cette demande séparatiste. Premièrement, les personnalités, les rythmes, les moments, les modalités. Créé de manière embryonnaire en 1848 autour de deux philosophes kantiens et spiritualistes, Tous deux disciples de Victor Cousin, Jules Simon et Jules Barni, la libre pensée institutionnalisée ne survécut pas à l'orientation conservatrice de la Seconde République ni au coup d'État du 2 décembre. Accusée d'avoir pactisé avec le président parjure, l'Église devint une institution particulièrement honnie et méprisée, mais les libres penseurs ne purent exposer en France leurs convictions, qui étaient d'ailleurs préférentiellement centrées sur la séparation de l'Église et de la famille, sur la séparation de l'Église et de l'école, qu'après l'amnistie de 1859 et à la fin des années 1860, lorsque les libertés publiques furent un peu plus largement accordées. En 1866, un libre penseur notoire du nom d'André Saturnin Morin, dit Miron, qui avait été sous-commissaire du gouvernement puis sous-préfet de la Seconde République, publia un ouvrage intitulé « De la séparation du spirituel et du temporel », dans lequel il inclut un projet de loi de séparation du spirituel et du temporel, fort de 11 titres et de 73 articles, qui occupe dans son ouvrage de la page 457 à la page 469. Donc, vous le voyez, un projet assez élaboré, mais produit en dehors de tout cadre parlementaire. En 1867, peu après la bataille de Mantana, Jules Simon condamna au corps législatif l'expédition du général de Failly, parla en faveur de la fin du pouvoir temporel de la papauté et de la séparation de l'Église et de l'État. La doctrine des concordats, dit-il en cette occasion, était déjà caduque en 1516, date de la signature du concordat de Bologne. Il développa de nouveau cette thèse dans La politique radicale, publiée en 1868, année durant laquelle, sous le titre « La morale dans la démocratie », Jules Barni publia un cours qu'il avait professé à Genève en 1864. Cet ouvrage contient quelques pages consacrées à la sécularisation, nous dirions aujourd'hui la laïcisation, donc la sécularisation de l'État, et à l'entière séparation de l'Église et de l'État. L'année suivante, un autre philosophe libre-penseur, Étienne Vachereau, prit position encore plus fermement dans son ouvrage intitulé « La religion ». La séparation absolue de l'Église et de l'État y était instamment réclamée au nom de l'honneur des principes et de la liberté. Il faut encore citer Ernest Hendley, qui publia en 1869 la séparation de l'Église et de l'État. Cette année 1869 vit se dérouler des élections législatives et la campagne électorale fut marquée par l'engagement séparatiste d'un certain nombre de candidats. Gambetta et le célèbre programme de Belleville, c'est-à-dire le cahier des charges qui lui fut présenté par ses électeurs et qu'il accepta, Jules Ferry, Adolphe Guéroux, Jules Vallès, d'autres encore. En 1870, malgré les efforts des blanquistes, l'attente des républicains anticléricaux et séparatistes fut déçue et le court décret de 4 articles pris par la Commune le 3 avril 1871 n'eut qu'une portée toute symbolique, encore très forte dans la mémoire d'une certaine mouvance laïque d'aujourd'hui. Les sociétés de libre-pensée ne purent vraiment se multiplier qu'à partir de 1879. À l'origine, les sociétés locales, créées à un rythme assez rapide et en nombre important dans certains départements déchristianisés depuis longtemps, comme Lyon, étaient surtout des sociétés d'enterrement civil, plus attentives à la vie privée de leurs membres qu'à de grandes questions d'ordre général ou national. La demande de séparation des Églises et de l'État s'exprima davantage au niveau national, mais s'intensifia, y compris dans les sociétés locales, durant le quart de siècle qui sépare la victoire républicaine de la loi de 1905 au fil des années. La séparation des Églises et de l'État appartient au programme de la Fédération française de libre-pensée, fondée en 1890. Elle figure aussi au programme de l'Association nationale des libre-penseurs de France, fondée en 1902, avec deux présidents d'honneur particulièrement prestigieux, Anatole France et Marcelin Berthelot. Il faut dire que tous les libre-penseurs à l'époque n'étaient pas séparatistes. Comme les républicains d'une manière générale, ils se sont divisés en deux grands groupes. Ceux qui pensaient qu'il fallait maintenir le concordat, qu'il serait trop dangereux de rendre sa liberté à l'Église, ceux qui, au contraire, voulaient la séparation. La plupart des libre-penseurs étaient séparatistes, mais quelques-uns faisaient très bonne figure dans le camp concordataire, et notamment Paul Bert, membre d'une société de libre-pensée auxerroise et membre de l'Union démocratique de propagande anticléricale. Sans doute parce que la plupart des sociétés de libre-pensée avaient tendance à se replier sur les cérémonies civiles ou à s'occuper davantage des congrégations, à se lancer dans un anticléricalisme qui visait les personnes et les dogmes, certains libre-penseurs ressentir le besoin de créer des mouvements spécifiquement consacrés à la séparation des églises et de l'État ou à la suppression du budget des cultes. En 1882, fut fondée la Ligue nationale pour la séparation des églises et de l'État, dont le président était Charles Boisset, alors vice-président de la Chambre des députés. Parmi ses membres, assez peu nombreux, la Ligue comptait moins de 1200 personnes, figuraient deux sénateurs inamovibles, Léon Laurent Pichat et Victor Schelser, et une centaine de députés. En 1888, fut envisagé autour d'Yves Guyot et du docteur Blatin, bien connu pour ses activités maçonniques, la création d'une ligue pour la suppression du budget des cultes. Les soubresauts causés par l'épisode boulangiste dans la vie politique française détournèrent les énergies vers des combats plus importants et finalement, cette ligue ne vit jamais le jour. Ces différentes associations, libres penseuses ou péri-libres penseuses, organisaient des conférences pour parler de la séparation dans les petites villes, les bourgs, les campagnes. Par exemple, Boisset se rendit à Chalon-sur-Saône en octobre 1882 et Alexandre Millerand, qui était alors libre penseur, à Gien en juin 1883. Ces sociétés inscrivaient la séparation à l'ordre du jour de leur congrès. Il faut rappeler que quelques grands congrès universels de la libre pensée se sont tenus en France et ont compté la séparation dans leur ordre du jour, et notamment le congrès de Paris de 1889, le congrès de Rome de 1904, puis de nouveau un congrès à Paris en 1905. Par ailleurs, dans les activités séparatistes de la libre pensée, il faut absolument mentionner la grande journée pour la séparation organisée par l'Association nationale des libres penseurs de France le 17 mai 1903. D'autres moments que ces congrès libres penseurs étaient des temps forts pour parler de la séparation. Les campagnes électorales des législatives étaient particulièrement importantes pour les libres penseurs qui aiguillonnaient les députés républicains et les interrogeaient, les candidats je veux dire républicains, et les interrogeaient systématiquement sur leurs opinions en matière de régime des cultes. À dire vrai, ils étaient souvent déçus après coup. Ainsi, le 25 octobre 1885, André Saturnin Morin écrivit dans la Libre Pensée Socialiste « Nos candidats admettent le principe de la séparation, mais quant à la réalisation, ils recourent à des distinctions, à des subtilités. Ils posent des conditions vagues, sans définir clairement en quoi elles consistent, et en définitive, ils n'aboutissent qu'à des ajournements indéfinis. Le nombre des candidats qui s'étaient engagés à voter la séparation était inférieur à 80 en 1885 et inférieur à 200 en 1902. Il convient de remarquer que la droite, qui mettait en avant ces nombres pour dire que la Chambre n'avait pas le droit de discuter de la séparation, et que les républicains séparatistes, qui voulaient contraindre des candidats à s'engager en faveur de la séparation et à œuvrer pour elle au sein du Parlement, s'ils étaient élus bien sûr, méconnaissaient tous le grand principe électoral français selon lequel tout mandat impératif est nul. Autre moment fort, au sein de la Chambre des députés, la discussion du budget des cultes et le vote de la loi de finances furent systématiquement prétexte à parler de séparation, car durant un quart de siècle, il se trouva chaque année des députés qui, à l'instar d'Audry de Puyraveau en 1832, demandaient la suppression du budget des cultes. Ne l'obtenant pas de manière globale au moment de la discussion générale, ils intervenaient dans la discussion pour le vote de chaque chapitre du budget des cultes et argumentaient à propos de tel ou tel article. Leurs adversaires répondaient, et c'était des joutes à n'en plus finir, à propos du concordat, de la séparation, à grand renfort d'arguments juridiques, historiques, philosophiques et théologiques. La discussion de l'année 1882 est particulièrement intéressante. Elle occupe des dizaines de pages dans le compte-rendu des débats parlementaires. 1882, c'est bien sûr l'année du vote de la loi du 28 mars, qui vit paraître de nombreux mandements épiscopaux hostiles à cette législation républicaine. En 1882, il existait déjà une commission dite du concordat, dont Paul Bert fut le rapporteur, commission qui examinait un certain nombre de propositions de loi qui avaient été déposées, soit pour abroger la loi du 18 germinal, soit pour modifier les dispositions concordataires. Parmi ces propositions, il y avait celle de Charles Boisset dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait également une autre proposition déposée par un député libre-penseur, Jules Roche. Dans cette année 1882, les esprits étaient particulièrement passionnés et il y eut de très vifs échanges, notamment entre Jules Roche et Monseigneur Frépel, évêque d'Angers et député du Finistère. Il faut dire que dans ses séances du mois de novembre 1882, le président eut beaucoup de mal pour faire régner un peu d'ordre et de courtoisie entre des gens qui n'étaient pas toujours aimables entre eux. Après l'affaire Dreyfus, après le vote de la loi du 1er juillet 1901, dont le titre 3 est consacré aux congrégations, après tous les incidents de l'année 1904 autour des affaires de Monseigneur Jay et de Monseigneur Le Nordez, du différend toujours pendant relatif à l'entente préalable entre le nonce et le gouvernement pour la nomination des évêques, autour du voyage du président Loubet à Rome et de la note diplomatique rédigée par le secrétaire d'État Méry Delval, la pression libre-penseuse se fit particulièrement sentir sur le bloc des gauches et sur Combes, dont la libre-pensée disait surveiller la politique aérie concordataire. À la Chambre, j'en arrive vers la fin de la période, à la Chambre, durant toute la durée des débats, les députés libre-penseurs, comme Maurice Allard, comme Victor de Gente, qui avait rédigé une proposition de loi qui était à l'étude par la commission de la séparation mise en place au mois de juin 1903. Donc Maurice Allard, Victor de Gente, Bouvry, tout au long des débats, essayèrent, comme ils le faisaient d'ailleurs par ailleurs dans la commission, quand ils en étaient membres, ce qui était le cas d'Allard, essayèrent de durcir le projet par des amendements divers et se plaignirent très amèrement qu'on ne prenait jamais en compte leurs amendements alors que l'on prenait systématiquement en compte les amendements des républicains modérés, comme ceux d'Alexandre Ribot, par exemple. Le 3 juillet 1905, jour des explications de vote et du vote de la loi à la Chambre des députés, Maurice Allard, donc libre-penseur, député socialiste du Var, déclara « Messieurs, je considère que cette loi ne répond nullement aux desiderata des républicains et des libres-penseurs. La loi de séparation que la Chambre va voter dans quelques instants n'est pas celle que demande le pays, qui veut la séparation intégrale et qui a toujours considéré cette mesure comme devant être une arme de combat contre les religions. Deuxièmement, les fondements de la revendication séparatiste. Ces fondements sont de divers ordres et je vais commencer par ceux qui sont à caractère idéologique et historique. Les allusions à l'origine du Concordat sont assez fréquentes. Ainsi, le 1er juin 1886, lors de la discussion sur la prise en considération de la proposition de loi de Plantot et de Michelin, deux députés de l'extrême gauche, proposition de loi sur l'abrogation de la loi du 18 Germinal an 10, Michelin présenta le Concordat comme l'œuvre de l'homme funeste qui a détruit la Révolution française, qui a détruit son œuvre et qui a essayé de rétablir la monarchie à son profit. Le 9 novembre 1881, l'anticlérical présenta le Concordat comme une personne, une œuvre personnifiée nommée Basile César Concordat, Basile César. En juillet 1902, le bulletin mensuel de la Fédération française de la libre-pensée parla du mariage de déraison imposé par Napoléon à la carpe Église et au lapin État. Les reproches adressés à Napoléon Ier l'étaient aussi à son neveu et au prélat qui avait célébré des Tédéum en l'honneur du 2 décembre. Le 12 novembre 1882, Jules Roche déclara à la Chambre « Les prélats bénissent leur parjure, ils chantent des Tédéum et on leur paie leur Tédéum. » Peu après, Madier de Mongeau enfonça le clou, l'Église dit-il, a béni ceux qui lui ont présenté les lambeaux ensanglantés de la Constitution de 1848. Des griefs de même nature ressortent encore à propos du 24 mai 1873 et du 16 mai 1877, deux moments dramatiques dans l'histoire de la jeune Troisième République qui donnèrent à Jules Stegg, à l'occasion de son rapport sur la proposition de Charles Boisset le 30 janvier 1882 et à Paul Bert dans son célèbre rapport du 31 mai 1883, l'occasion de dénoncer la complicité entre l'Église et les forces rétrograde du pays. De même est mise en avant l'attitude du clergé qui s'immisce, dit-on, dans les élections législatives. Bref, les républicains libre-penseurs et séparatistes demandent systématiquement pourquoi la République tolère l'existence de 40 000 chaires occupées par des adversaires que de surcroît elle paye sans disposer de véritables moyens pour les sanctionner en cas de nécessité car, dit la libre-pensée socialiste de septembre 1885, les appels comme d'abus et les suspensions de traitement sont des moyens platoniques. Le clergé français est accusé non seulement de ne pas aimer la République, mais en outre de ne pas aimer la France, de ne pas avoir de patrie. Le 14 novembre 1882, Jules Roche ayant désigné le ministre de l'Intérieur et des Cultes, il s'agissait alors de Falière, comme le chef de Monseigneur Frépel, celui-ci répondit « Mon chef, allons donc, je n'ai qu'un pape, je n'ai pas d'autre chef que le pape. » Il eut beau préciser après « dans l'exercice de mes fonctions. Sa remarque n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd et Germain Casse lui lança « Allez trouver le pape pour vous faire payer ». Et Clémenceau ajouta que Mgr Freppel savait bien reconnaître la République comme son banquier. Le lendemain, Jules Roche présenta les prêtres comme une armée de rebelles contre la République, des hommes qui ne reconnaissent pour patrie que la Rome du Vatican, pour loi que le syllabus, pour chef que le pape. Le syllabus, le grand mot, était lâché. Les accusations d'obscurantisme et d'atteinte à la marche de la liberté, de la raison, du progrès, reposaient encore sur d'autres actes romains. Le 6 novembre 1890, Albert Lecomte, député libre-penseur de l'Indre, parla en faveur de la suppression des crédits pour l'ambassade près le Saint-Siège, qui accompagne en général la demande de suppression du budget des cultes, et il fonda sa revendication sur l'obscurantisme de Rome. Après avoir rappelé les mœurs des Borgia, il en arriva aux canonisations et aux béatifications, véritable insulte aux habitudes modernes et plus spécialement à celle de Benoît Labre, cet homme qui, dit-il, avait laissé son corps se transformer en champ de poux et que l'Église portait sur ses autels à une époque où l'hygiène était l'un des objectifs de l'éducation moderne. La papauté, avec ses vieilles traditions, n'est plus en harmonie avec les progrès de la science et du bien-être. Les autres fondements sont d'ordre philosophique et reposent notamment sur la liberté de conscience. Liberté de conscience qui est un problème moral et philosophique tout à fait central tout au long du XIXe siècle, qui pose une question d'interprétation, puisque pour certains la liberté de conscience correspond au fort interne et que pour d'autres elle ne veut strictement rien dire si elle ne s'accompagne pas de la liberté du fort externe, c'est-à-dire de l'expression publique des cultes. Et il y a eu tout au long du XIXe siècle, des atteintes effectivement constantes à la liberté de conscience, des cultes non organisés, des membres des cultes non organisés par l'État, et même dans certains cas, des cultes organisés par l'État, mais minoritaires. Je n'ai pas le temps d'expliquer ceci. Alors, il faut dire que directement en liaison avec la liberté de conscience, se trouve la question du budget des cultes, qui est vue comme une atteinte à la liberté de conscience, alors même que les autres problèmes relatifs à la liberté de conscience ont quand même été très largement réglés dans la France de la Troisième République, d'une part par les lois de laïcisation, d'autre part par les lois sur les libertés publiques, puisque les Français ont conquis la liberté de la presse, une grande liberté en matière de réunion, et qu'ils conquerront en 1901 la liberté le droit de s'associer librement. Mais pour les anticléricaux séparatistes, il reste une atteinte à la liberté de conscience, qui est le budget des cultes, puisque le budget des cultes fonctionne grâce aux impôts de tous les Français, qu'ils soient croyants ou qu'ils soient incroyants. Bon, j'avais toute une partie à développer sur le budget des cultes et la manière dont les libres penseurs les épluchent. Je ne le ferai pas. Donc, mon hypothèse, et c'est ce que j'ai développé en conclusion du livre qui va bientôt sortir sur la séparation, c'est que si la loi de 1905 est effectivement une loi qui fonctionne de manière libérale, qui a fonctionné, qui a appris, je dirais, si une loi peut apprendre quelque chose, a fonctionné de manière libérale au fil des années et des décennies, telle en outre qu'elle a été transformée par les lois de 1907, 1908, 1924, etc. Je pense que l'on s'aveuglerait étrangement en ne présentant la loi de 1905 que comme une loi libérale, comme une loi de liberté. Moi, je suis persuadée qu'une large part du camp républicain, à l'exclusion des républicains modérés, bien évidemment, large part du camp républicain dans laquelle je range Jaurès et dans laquelle je range Briand et dans laquelle je range Pressensé, je suis persuadée, je n'ai pas le temps de vous lire des textes ici, qu'ils ont eu le sentiment de faire à l'Église un cadeau empoisonné et qu'ils ont pu se permettre des déclarations de liberté de conscience, des déclarations de tolérance à moindre frais, puisque dans leur idée, la liberté devait tuer l'Église. Je renvoie à certaines déclarations de Briand, à certaines déclarations d'Anatole France. Je renvoie également au célèbre discours de Viviani en 1906. Nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus, etc. etc. Ma question est de savoir quelle a été ma question de conclusion, je veux dire, est de savoir quel a été le rôle de la libre pensée finalement dans la marche à la séparation. Est-ce qu'elle a été une mouche du coche qui a hérité des républicains plus qu'elle ne les a guidés? Est-ce qu'elle a été un éclaireur efficace qui a ouvert une voie? Je pense qu'il y a un petit peu des deux dans le comportement des libres penseurs. Des hommes comme Boisset, Roche, Allard, ultérieurement, ont effectivement pu gêner les républicains libres penseurs plus raisonnables. Je pense malgré tout que leur insistance à discuter chaque année lors de la loi de finances, à déposer des propositions de loi, à organiser des conférences, à publier une presse qui parle de séparation n'a pas été sans incidence. Et il est assez paradoxal d'une certaine manière, ce sera le dernier mot, que cette libre pensée, qui je crois a joué un rôle important dans la marche à la séparation, a été finalement la part de la société politique la plus mécontente de cette loi, puisque ce n'a pas été la loi qu'elle voulait et qu'elle a vécu le dernier jour de l'année 1905 en espérant que très vite elle verrait une révision de cette loi qui la mécontentait si fort.
Canal Académie vous propose maintenant d'écouter l'intervention au colloque 1905 de Monsieur Alain Boyer, intitulée « Du refus à l'acceptation, l'Église catholique et la séparation ». Nous écoutons Alain Boyer.
Je voudrais tout de suite préciser que je ne parlerai pas en qualité de sous-préfet de Chalon-sur-Saône, même si nous pourrions faire des liens avec 1905 à travers la figure de Pontus de Thiars, évêque de Chalon-sur-Saône, au temps difficile des guerres de religion, lui-même grand humaniste, lui-même, dans ses lieux prestigieux, un des fondateurs de la Pléiade, et qui fut persécuté et pourchassé par la Ligue, et qui fut un des grands partisans et des politiques et de Henri IV et de la conclusion de l'Édit de Nantes. Et vous voyez que sur la longue durée, sous les auspices de mon maître Fernand Braudel, on pourrait faire quelques liens. Je ne parlerai pas non plus, puisque c'était les fonctions que j'occupais lorsque Yves Brûlé, que je remercie ici, collaborateur d'André Damien, m'a demandé d'être parmi vous en qualité de sous-préfet de Reims, même si à Reims on trouvait de grandes figures de l'Église catholique, le cardinal Langeigneux et le cardinal Luçon, qui ont été du côté catholique des opposants à la loi, et de l'autre côté, Léon Bourgeois, grande figure favorable à la séparation, qui fut sous-préfet de Reims, qui était à l'époque, qui fut aussi président du Conseil, qui était député de la Marne, et qui devint prix Nobel de la paix. Donc vous voyez qu'on peut aussi faire quelques liens, et qui permettent d'avoir un peu de recul. Je n'insisterai pas tellement dans le temps qui nous est imparti sur le refus bien connu de la loi de séparation des Églises et l'État par l'Église catholique. En tant qu'institution, je le rappelle, parce que la loi de séparation fut acceptée majoritairement par les catholiques du suffrage universel, ce qui explique d'ailleurs le succès des républicains radicaux et socialistes aux élections de mai 1906. Je évoquerai quelques essais d'accommodement de modus vivendi, et l'on connaît l'épisode des cardinaux verts, bien étudié par Jean-Marie Mailleur. Ce que je voudrais dire, c'est que la loi de 1905, et ceci a été rappelé dans un ouvrage récent par Jacqueline Lalouette, était bien une loi de liberté, mais en même temps, elle a été vécue dans une période de tension politique extrême. Et ceci explique beaucoup des malentendus de l'époque. L'encyclique Gravissimo Officii du 10 août 1906, après la condamnation de principe posée par Pie X en Veniternos le 11 février 1906, allait beaucoup compliquer les relations entre l'Église catholique et l'État. Si le gouvernement, et en particulier si on en croit Louis Méjean, s'attendait bien à la condamnation de principe pour une rupture unilatérale du Concordat, il semble bien qu'ils aient moins attendu l'interdiction faite aux catholiques français de créer des associations conformes à la loi. Et il y eut pourtant, un ouvrage récent de l'Université catholique de Lyon le rappelle, il y eut quand même, malgré l'interdiction catholique, des essais, en particulier en Saône-et-Loire, de création d'associations catholiques locales qui devenaient évidemment par là même schismatiques. Le gouvernement, comme vous le savez bien, choisit après la crise des inventaires l'apaisement, en particulier avec la circulaire au préfet du 16 mars 1906 qui permit de sursoir à l'application et connaît la formule de Clémenceau devant le Sénat, la question de savoir si l'on comptera ou si l'on ne comptera pas des chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine. Le 24 mars, Briand, ministre de l'Instruction publique et des cultes, demandait le rétablissement des pensions aliments et allocations communales cumulées avec des pensions d'État. Comme l'écrivait la brochure de propagande électorale rédigée par Grunebaum-Ballin, le régime de séparation des églises et de l'État entend établir une démarcation absolue entre le domaine de la religion, celui du surnaturel et du divin, dans lequel l'État n'a pas à s'immiscer, et celui des intérêts humains et terrestres, dont il a exclusivement la charge. Tous les cultes sont libres et tous les cultes sont égaux devant la loi. Il n'y a pas de religion officielle et les catholiques n'ont pas plus à payer pour l'entretien des pasteurs et des rabbins que les libres penseurs pour le traitement des curés. L'Église catholique allait vite profiter de la liberté nouvelle qui lui était offerte, d'abord dans les nominations épiscopales, mais aussi dans l'organisation de l'Assemblée des évêques. Mais elle était beaucoup plus prudente à accepter d'être réduite au même plan que les autres cultes. La circulaire d'Aristide Briand du 31 août 1906, rédigée par Louis Méjean, donne déjà une interprétation large de l'objet cultuel des associations de la loi 1905. Le gouvernement ne veut pas l'affrontement. Et l'on connaît tous les accommodements avec la loi du 2 janvier 1907 permettant la poursuite légale de l'exercice du culte catholique en l'absence d'associations cultuelles. Malgré une nouvelle condamnation de la loi par la lettre pontificale, une fois encore, du 6 janvier 1907, accusant les auteurs de la loi de vouloir détruire l'Église et déchristianiser la France, les évêques décident de publier le 30 janvier 1907 une déclaration autorisant à titre d'essai des contrats administratifs avec les pouvoirs publics afin de permettre l'exercice du culte dans les églises. La loi du 28 mars 1907 dispose « Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable ». On voit bien qu'on est déjà en marche vers au moins un apaisement. Le culte catholique déjà pouvait être exercé librement, le clergé devenant dans les églises un occupant sans titre juridique. Cependant, le gouvernement, et en particulier Aristide Briand et son collaborateur Louis Méjean, directeur des cultes, continuait d'espérer que l'Église catholique s'organise enfin légalement dans une forme d'association irréprochable, permettant sinon un renouveau du gallicanisme, du moins une Église de France suffisamment forte pour faire entendre sa voix à Rome. Rome, de son côté, n'avait pas renoncé à un accord avec la République, régime qu'elle ne rejetait plus depuis le ralliement de Léon XIII au moins. La Première Guerre mondiale, on l'a rappelé, allait permettre ces rapprochements. D'abord à cause du péril extérieur, mais aussi à cause de la fraternité des tranchées. L'absence de relations officielles avec le Saint-Siège avait montré les difficultés que la France éprouvait pour peser sur les tentatives de paix séparées menées par Benoît XV. Le Saint-Siège, de son côté, était bien conscient des périls nouveaux que l'Europe allait affronter avec la montée du nationalisme ou l'installation du communisme athée. De part et d'autre, on était prêt à rouvrir le dossier. C'était la volonté d'Aristide Briand, qui, depuis qu'il avait pris en main la séparation, souhaitait un règlement définitif de ces questions religieuses. Comme le notait le bulletin général spiritain de 1920, pour s'en réjouir, la guerre a purifié l'atmosphère. Et on peut dire que la conjoncture avait largement évolué en France, les radicaux acceptant de s'allier avec, disons, des républicains opportunistes et progressistes, sans renier la laïcité. La Chambre Bleue Horizon manifesta cet esprit nouveau. La première manifestation publique, et ceci vient d'être rappelé brillamment par le secrétaire perpétuel Jean Cluzel, furent les cérémonies de canonisation de Jeanne d'Arc avec une délégation française officielle. Cette démarche, comme il était indiqué, fut suivie de peu après par le rétablissement des relations diplomatiques, relations qui avaient été rompues, on le sait, à la suite de nombreuses querelles, le Nominawit, l'affaire des évêques de Dijon et de Laval, mais plus profondément à cause des notes suivant la visite officielle du président Loubet à Rome. La protestation qu'avait faite le Saint-Siège alors avait surpris les autorités françaises et Poincaré, président du Conseil peut rappeler le 6 juillet 1923 que très peu de temps auparavant, le Saint-Siège avait envoyé son cardinal saluer le roi d'Italie à Bologne, c'est-à-dire dans une ville qui avait autrefois fait partie des États pontificaux, et se demandait pourquoi le président français ne pouvait pas aller à Rome. On sait ce qu'il en était de cette note qui fut communiquée par Albert Ier à Jean Jaurès et les suites liées à cette rupture des relations diplomatiques. On sait que la loi de séparation avait été proposée sans dénonciation préalable du concordat, car le gouvernement, après la rupture des relations diplomatiques, avait souhaité agir sans tenir compte du pape. Pie X avait donc écarté du débat, avait donc bonne raison pour voir dans la loi des intentions schismatiques qui n'y étaient pas, du moins, de la part de ses principaux auteurs. Et on voit à cette époque toute une discussion qui apparaît autour de cette évolution pour essayer dans l'opinion catholique, dans les années 1920, de faire comprendre ce qu'était la portée véritable de la loi. Et je m'appuierai sur un numéro spécial de l'Europe Nouvelle de 1924 qui s'appuie sur une étude qui est présentée comme celle d'un haut fonctionnaire bien au courant des affaires et qui est sans doute, et nous aurons dans la prochaine communication la preuve, de la plume de Wiccanet. C'est mon collaborateur regretté, Michel Brizet, qui m'avait orienté sur cette publication. La République ne reconnaît aucun culte, dit l'Europe Nouvelle, cela voulait dire il n'y aura plus à l'avenir de culte reconnu ni d'église établie. La religion n'est plus un service de l'État et c'est au particulier qu'il appartiendra désormais de pourvoir à son organisation. On comprit à Rome qu'il s'agissait d'abolir le culte, de détruire les églises et d'expulser Dieu des consciences françaises. Et c'est bien sur ce malentendu que l'on veut revenir. Et il ne s'agissait pas, évidemment, de détruire ou de déposséder l'Église catholique. Dans l'Europe nouvelle, on insiste sur l'étrange distinction que l'on imagina alors à Rome entre les associations telles que la loi les impose, dit l'encyclique Gravissimo Officii, Quales divini cultus exercendi causa lex constitui iubet, ce que le cardinal Gaspari appelle aujourd'hui les cultuels tout court et les associations canonico-légales pour lesquelles l'épiscopat français, dans sa majorité, s'était prononcé. Pie X interdisait absolument et irrévocablement les premières. Il interdisait aussi les secondes, mais provisoirement, sous une condition suspensive, à savoir tant qu'il n'y aurait pas de certitude légale que les droits de la hiérarchie s'y trouveraient en sûreté. Pie X souhaitait une négociation directe. Lorsque la question des cultuels catholiques revint en discussion à la Chambre, les 18 et 25 novembre 1920, Aristide Briand et l'abbé Lemire rappelèrent que l'Assemblée des évêques, qui avait pu seulement se constituer après l'abrogation du Concordat de 1801, et dit le texte de la loi du 18 Germinal an 10, ensemble les articles organiques, s'était prononcé en faveur d'associations canonico-légales autour du projet de Mgr Fulbert Petit, archevêque de Besançon. Et d'ailleurs, dans l'encyclique, Pie X dit qu'il avait condamné ces associations, non pas sur avis conforme des évêques de France, mais après en avoir conféré avec eux, auditis uticque episcopis galliae, c'est-à-dire, il les a consultés, mais il ne les a pas suivis. La volonté de parvenir à un accord est sensible alors de part et d'autre. Aristide Briand a toujours considéré que sa loi, on peut dire sa loi, était acceptable pour l'Église catholique et il voulait le prouver. Le Saint-Siège ne voulait plus poursuivre, ça a été dit brillamment, un combat inutile contre la France républicaine. Mais des divergences apparurent au moment de chercher l'accord, ce qui explique la lenteur des négociations. En effet, le gouvernement français ne voulait ni modification de la loi, ni un nouveau concordat. Il souhaitait l'application de la loi telle qu'elle, avec des associations catholiques. Le Vatican souhaitait, au contraire, un véritable accord diplomatique qui aboutisse à une reconnaissance de fait, non pas du Saint-Siège, puisqu'il y a rétablissement des relations diplomatiques, mais une reconnaissance de droit de l'Église catholique, lui assurant un statut spécifique en France. On s'est quand même mis d'abord d'accord sur la méthode. Le Saint-Siège ferait connaître ces statuts conviennent à l'Église de France et le gouvernement dirait si ces statuts sont conformes à la loi. La première phase des négociations est liée, a été un petit peu évoquée, au rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. On tâta le terrain de part et d'autre. Le commentaire officieux de la secrétaire d'État sur l'encyclique Maximam en précise a posteriori le contenu. Les négociations pour le rétablissement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège offraient l'occasion de toucher aussi la grave question de la situation légale de l'Église de France. C'est alors que M. Doulcet, chargé d'affaires du gouvernement français près le Saint-Siège, demanda à celui-ci s'il était disposé à traiter sur ce point. Le souverain pontife, Benoît XV, après avoir pris l'avis des éminentissimes membres de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, répondit qu'il aborderait volontiers l'importante question, à condition toutefois que fussent obtenues les garanties que Pilis avait demandées. Sur la base de cette réponse, le gouvernement français chargea des personnes compétentes de rédiger un projet de statut pour des associations qui furent dénommées diocésaines. On a un rapport de Georges Noblemaire à la Chambre des députés qui est plus précis, sur lequel je passerai rapidement, mais qui montre bien que la balle devait être désormais dans le camp de l'Église catholique. Le cardinal secrétaire d'État, au cours d'un de ses premiers entretiens avec M. Doulcet, avait, sans donner à ce vœu le caractère d'une condition, exprimé le souhait que plus tard, les établissements des cultes obtinssent en France la personnalité civile. Le représentant du gouvernement français constata dès l'abord que le cardinal secrétaire d'État, non seulement ne lui manifestait aucune surprise de voir la reprise des relations ne comporter aucune modification de la législation française existante, mais déclarait que le point de vue du Vatican, pour faciliter la reprise des relations, était de ne pas revenir sur le passé. Monsieur Doulcet, dûment autorisé, fit remarquer que, objectivement, c'était l'Église de France elle-même qui, jusqu'à présent, n'avait pas usé des avantages offerts par la loi 1905, avantage précisé en ce qui concerne la sauvegarde des droits de la hiérarchie par la jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Cette jurisprudence fut communiquée au cardinal secrétaire d'État et par lui à la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, réunion de cardinaux qui est à peu près exactement homologue à ce qui s'appellerait ici la Commission des affaires étrangères. Donc, on voit dès cette époque, dès l'époque du rétablissement des relations diplomatiques, que l'on est d'accord pour arriver à une situation d'association tolérée. Cependant, les affaires vont durer un petit peu de temps pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a eu des divisions à l'intérieur de l'Église de France, il faut bien le reconnaître, et que certains cardinaux français réunis à Rome pour les fêtes de canonisation de Jeanne d'Arc, dont on a parlé, se trouvèrent unanimes dans la résistance respectueuse. Et il s'agit de cardinaux proches du cardinal Méry Delval et de la Sapinière et du cardinal Benigni, etc. Et puis donc, on voit l'hésitation maintenant de l'Église de France. Cependant, le rétablissement des relations diplomatiques rendait désormais le dialogue possible et avait levé les préalables, c'est-à-dire Rome acceptait qu'il n'y ait pas de modification de la loi. Mais il fallait trouver des solutions pratiques. La clarification devait venir d'abord à l'intérieur de l'Église. Le père Yves de la Brière, dans la revue Études, le 5 septembre 1922, rappelait encore le rôle des paroisses locales et disait que, dans le droit canonique, on pourrait très bien avoir des associations paroissiales. L'épiscopat en jugea autrement. Pour avancer sur ce dossier, Mgr Chapon, comme le rappelle l'abbé Renaud, entreprit de présenter à l'examen du gouvernement français et à l'agrément du Saint-Siège un projet d'association diocésaine. Ce projet fut soumis à Aristide Briand, alors président du Conseil. Ce projet est présenté comme ayant été rédigé par un prêtre de Paris, sans doute l'abbé Renaud. Ce projet fut présenté dès le 9 novembre 1921 à une réunion d'experts au ministère de l'Intérieur, présidée alors par Maurice Colera, sous-secrétaire d'État à l'Intérieur, plus particulièrement chargé des cultes, et bien sûr les experts conclurent que ces statuts étaient conformes à la loi. Mais évidemment, le problème, c'était qu'il fallait aussi que l'Église catholique soit tout à fait d'accord avec ce projet. Et c'est de ce côté-là que des difficultés survinrent. En effet, si Mgr Chapon était pour une solution, certains membres de l'épiscopat, et en particulier le cardinal Andrieux, archevêque de Bordeaux, étaient beaucoup plus réticents et voulaient obtenir plus de garanties. Le projet envoyé à Rome en décembre 1921, les statuts, il y a changement de pape, les statuts ont été soumis pro informatione et voto à l'épiscopat français seulement par Pie XI, donc après le 6 février 1922. Et le cardinal Andrieux prétend que la majorité de l'épiscopat français se prononça contre le projet. L'abbé Renaud, au contraire, dit « la majorité est favorable, mais avec des aménagements ». En fait, il y eut toute une série de modifications, mais qui venaient uniquement du côté de l'Église catholique. La congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires fut saisie du projet. Selon le Journal d'Italia, bien renseigné par Mgr Benigni, 3 séances furent consacrées et le cardinal Méry del Val demanda qu'on relise les avis du cardinal Rampolla de l'époque de 1905. Pie XI avait ordonné que tous les cardinaux soient présents à cette séance extraordinaire et selon le Journal d'Italia, 12 cardinaux se seraient prononcés contre, 3 pour, le cardinal Gaspari, rapporteur du projet, s'abstenant. Et c'est donc désormais le pape lui-même, Pie XI, qui décide de prendre les choses en main en déclarant qu'il accepterait les associations diocésaines à deux conditions. Premièrement, que les statuts fussent bien revus pour affirmer toujours plus leur caractère hiérarchique. Deuxièmement, qu'on obtint du gouvernement les garanties de sécurité et de légalité voulues par Pie X. Il apporta quelques retouches, c'est ce texte qui sera remis officiellement par Mgr Serretti à Raymond Poincaré, alors président du Conseil, le 7 mai 1923. Le président du Conseil, disposant de l'avis des jurisconsultes, répondit que ce projet était à nouveau jugé conforme à la législation sur les... Le 15 juin, Poincaré déclara à la Chambre que des associations pourraient donc être acceptées par l'Église catholique. Cependant, encore, certains évêques multipliaient des objections. Et, par exemple, le cardinal Andrieux, dans une note publiée le 9 novembre 1923, prétendait que l'article 4 de la loi 1905 ne concernait que des associations cultuelles qui demanderaient la dévolution des biens antérieurement possédés par un établissement public du culte. Poincaré soumit ses objections de nouveau aux jurisconsultes et les jurisconsultes maintèrent leur avis en disant que l'article 4 s'appliquait à toutes les associations cultuelles. Le Saint-Siège aurait encore souhaité obtenir plus de garanties avec une discussion parlementaire. Le gouvernement répondit qu'il appartient au Parlement, certes, de faire les lois, mais non de les interpréter, et que l'affirmation des chambres aurait eu une simple valeur morale, mais non une consistance juridique. Donc, il s'agit bien de jurisprudence. Il décida de soumettre au Conseil d'État le texte des statuts présentés aux nonces, et celui-ci se déclara d'avis le 13 décembre 1923, c'est l'avis définitif, que le projet de statut présenté est conforme à la loi, en considérant entre autres qu'aucune disposition n'interdit aux associations pour l'exercice du culte de fixer elles-mêmes l'étendue de leur circonscription, donc ça peut être un diocèse, mais ça peut être même toute la France, et que les associations qui seraient régies par les statuts présentés auraient bien pour objet exclusif de subvenir aux et à l'entretien du culte catholique et se conformerait à la constitution de l'Église catholique. Cet avis fut remis aux nonces, transmis à Rome. Pie XI considéra alors qu'il avait obtenu les garanties nécessaires et signa le 18 janvier 1924 la lettre encyclique Maximam Gravissimamque adressée aux cardinaux. Je m'attarderai un tout petit peu sur ce texte qui est une acceptation, on pourrait dire faute de mieux, contrainte et forcée de la loi 1905. En effet, Pie XI ne lève pas les condamnations de principe portées jadis par Pie X contre la loi. Il rappelle comment le 9 décembre 1905 a été promulguée cette loi par laquelle le Concordat, qui était depuis longtemps en vigueur, a été abrogé par l'une des parties seulement à l'encontre des formalités de droit et comment sans égard, soit pour la hiérarchie de l'Église, soit pour l'autorité du Saint-Siège, on a d'une manière injuste et arbitraire légiféré sur les droits et les biens ecclésiastiques comme aussi sur le culte divin. Ce que Pie X a condamné, nous le condamnons de même, et toutes les fois que par laïcité, on entend un sentiment ou une intention contraire ou étrangère à Dieu et à la religion, nous réprouvons entièrement cette laïcité et nous déclarons ouvertement qu'elle doit être réprouvée. Mais Pie XI, après avoir remercié, salué la constance de l'Église de France, affirme vouloir la pacification et chercher une solution, à savoir que la constitution de l'Église et les droits imprescriptibles du pontife et des évêques soient bien préservés. C'est pourquoi le pape déclare désormais permises les associations diocésaines, au moins en voie d'essai, sans aller jusqu'à les imposer. Mais il déclare avec insistance « Nous désirons et nous vous supplions en Jésus-Christ, par ce sentiment de piété filiale que vous avez envers nous et ce désir dont vous brûlez d'observer la discipline, l'unité et la concorde, d'essayer les dites associations. » Cette supplication décida les évêques, même les plus réticents, et l'on voit d'ailleurs, petit à petit, dépôt des statuts d'associations diocésaines. L'Église catholique découvrait désormais qu'elle pouvait vivre avec la loi 1905 et que si elle avait peut-être perdu un peu matériellement, elle y avait beaucoup gagné en liberté, en indépendance et en cohésion. Depuis, les relations entre l'Église catholique et la République sont devenues confiantes, voire cordiales. On a pu parler de séparation bien tempérée, de concorde sans concordat. Certes, la République n'avait cédé sur aucun des principes de la loi 1905. La loi 1905 n'avait pas été révisée, ni même modifiée, comme l'avait souhaité initialement le Saint-Siège. Le culte catholique s'organisant en association de droit privé, s'administrant librement et respectant les règles d'organisation du culte catholique. Et les statuts peuvent en être modifiés, comme l'évolution du droit canonique a appelé à le faire tout récemment dans les différents diocèses de France. Cette place particulière, acquise par les relations diplomatiques rétablies avec le Saint-Siège, donne cependant un statut, on pourrait dire, à l'Église catholique. Avec les échanges de lettres et de notes, on a bien des accords de nature diplomatique. Certes, il ne s'agit pas de traités, ces textes ne sont évidemment pas supérieurs à la loi, ils sont simplement fondés sur une interprétation de la loi. Mais il serait sans doute bien difficile de remettre cette interprétation en cause, un renversement de la jurisprudence étant fort improbable en la matière, car il n'aurait justement pas de fondement. Et en plus, il entraînerait bien des difficultés, car depuis 1924, l'Église de France soutient désormais sans faille la loi de 1905, mais en précisant toujours, relue par les accords Briand-Séréti. Cette évolution du refus à l'acceptation de la loi par l'Église catholique et plus largement de la guerre au dialogue montre bien toutes les possibilités contenues dans la loi de 1905. Ces possibilités, Aristide Briand les avait voulues et il a été très heureux, très fier, on peut dire, de finalement pouvoir les appliquer, de les faire comprendre et accepter à ceux qui avaient le plus violemment rejeté sa loi. Et il dit lui-même, ces principes s'appliquent déjà à tous les cultes qui existaient en France en 1905, mais il envisage qu'ils puissent s'appliquer sur les cultes à venir, comme il le montre en particulier sur les cultes dans les territoires d'outre-mer, et en particulier sur l'islam, qui fut évoqué par le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré. Nous sommes donc arrivés au terme de ce parcours et de ces affrontements vers une acceptation totalement ouverte, fidèle. Dès 1924, il faut dire que le pape y a mis du sien, parfois même contre ses cardinaux, pour trouver la solution. Et c'est cette solution qui nous permet de vivre en bonne intelligence. Je vous remercie.
Canal Académie.